évoquer brièvement, en parlant du niveau européen, l'objectif d'optimiser le mix énergétique européen. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Parce que, enfin, de l'extérieur, un peu naïvement, on pense que cette diversité non concertée des mix énergétiques européens pose plutôt problème. Ça ne semble pas être votre avis, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus.
Pose problème, non, nous on l'affiche plutôt comme une richesse. On dit qu'on a des moyens qui ne sont pas synchrones, qui ne fonctionnent pas sur la même logique. Optimiser, ça veut dire mettre en place les réseaux et les mécanismes de marché qui font qu'à chaque moment, on pourra disposer des moyens jugés les meilleurs. C'est pour ça que je mets optimisation sans mettre quelle est la fonction d'optimisation, parce que c'est peut-être purement marchand, mais on pourrait imaginer qu'elle soit plus orientée environnement et qu'on souhaite privilégier telle ou telle filière qui est en surabondance dans tel pays pour se substituer à des moyens carbonés. Quand on a construit la ligne France-Espagne qui a été inaugurée par Valls l'année dernière, je crois. Donc dans la partie valorisation, on a bien mis en avant le fait qu'à certains moments, cette interconnexion permettait d'exploiter le surplus de l'éolien espagnol qui sinon était perdu. On n'avait pas la capacité à le transmettre à l'ensemble de la plaque européenne. Et on est capable de calculer, on a des outils pour ça, comment l'éolien espagnol va se substituer à des moyens carbonés sur le reste de l'Europe. Donc en logique d'optimisation, on lève une contrainte en fait sur la manière de diffuser ce mix. Donc là, on est sur une optimisation qui permet d'évaluer les millions de tonnes de CO2 évitées chaque année par le biais de ce réseau. C'est cette logique d'optimisation que je voulais mentionner. Et inversement, quand ils n'ont pas de vent en Espagne, ils étaient amenés à démarrer des centrales à gaz. Ben là, ils pourront apporter, alors on pourrait parler de nucléaire propre, je ne sais pas si le terme est adapté, mais en termes de CO2, c'est le cas, qui viendra, qui permet d'éviter de démarrer des centrales à gaz localement.
Moi, ce que j'ai compris de cette partie de votre exposé, non, celui-là, c'est que
ça constituait finalement une sorte de politique européenne du mix énergétique, de fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait sans doute pas d'injonction possible et de conception unifiée entre les stratégies nationales, parce qu'à un moment donné, les Allemands décident que, pendant que les Français font, etc., etc. Mais tout ce que vous avez décrit sur ce mécanisme d'interdépendance faisait que, de fait, se constituait finalement une sorte de convergence sans stratégie, mais produisant réellement un mix énergétique qui, bon an, mal an, fait réaliser quand même un certain progrès collectif, même si il y a même d'éventuelles contradictions entre les choix des uns et des autres. Donc c'est assez intéressant
en termes de produits. L'électricité, c'est quand même... Oui, c'est intéressant en termes de façon dont se produisent des politiques. Parce qu'on a un peu l'impression qu'à un moment donné, un opérateur réseau dont le souci majeur est simplement, ça a été le fil rouge de tout votre exposé, maintenir de l'équilibre, concourt à fabriquer... des arbitrages qui ont une puissance politique dans le sens où ça relève de, ça traduit des choix et ça oriente un grand débat qui est quelle électricité on produit demain sans que ce sujet-là ne soit saisi en tant que tel à l'échelle européenne parce que les nations n'ont pas envie de partager ce moment de débat-là. Et je trouve ça très expressif parce que on a l'impression que la question politique s'est légèrement déplacée. À défaut de pouvoir l'affronter au plan international, eh ben on la résout, entre guillemets, on l'ajuste, de fait, à travers un opérateur de réseau.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a chaque pays qui, comme vous le dites, choisit un mix qui lui va bien. Et ce que nous demandons à la Commission, c'est de dire mettez le réseau par-dessus pour faire en sorte que, quelque part, c'est comme si c'était un seul pays. C'est-à-dire qu'on va pouvoir disposer à chaque moment, alors avec les limites du réseau qui ne seront jamais infinies, mais disposer à chaque moment, enfin avoir la possibilité. Comme j'ai dit, disposer au mieux de l'éolien allemand, qui ne restera jamais en Allemagne, et puis du photovoltaïque en Bavière, qui, ce que je montrais sur mon schéma, va venir en France. Faites le réseau qui permet de mutualiser les choix de tous les pays, qui fait que globalement, on va atteindre un objectif européen sans qu'il ait été binding, contraignant au niveau de chaque État membre.
Oui, alors, il s'éteint à chaque fois.
Hier soir, on a eu parce que chacun
une conférence avec sur les sujets de relations entre l'Europe et l'Afrique pour un co-développement. D'un point de vue énergétique, est-ce que ça a un sens que les grands opérateurs comme RTE aillent dans les pays africains, dans le Sahara par exemple, pour développer des centrales photovoltaïques, et que dans le mix de production énergétique qu'on cherche, d'avoir des échanges entre les continents pour pouvoir à la fois développer d'un côté et de l'autre côté, nous arriver à des emplois
plus sûrs et ouverts,
adaptés de notre consommation énergétique verte, propre, je ne sais pas comment on l'appelle, dans le cadre de ces politiques-là, puisque je comprends que globalement, on a une puissance de production qui peut globalement peut-être aider à un développement en dehors des frontières européennes.
Non, ces projets de raccordement, j'ai dit, il y a une ligne, mais une seule ligne aujourd'hui entre l'Espagne et le Maroc. Il y avait, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, il y a quelques années, à l'époque Sarkozy, il y avait un plan solaire Méditerranée qui visait justement à étudier le raccordement entre l'Italie, l'Espagne et les pays du nord du Maghreb pour étendre finalement toujours cette zone de mutualisation et dire bah, il y a quand même du solaire, pas du photovoltaïque classique, du solaire à concentration, à la chaleur, on en met des grands plans. Bien évidemment, ça servira d'abord aux locaux. Le but, c'est pas non plus d'aller vision coloniale comme ça a pu être dans d'autres projets. D'abord locaux, mais en revanche, en fonction de la respiration des moyens de production, ça peut bénéficier à l'Europe. Et puis, dans l'autre sens, inversement, il y a peut-être des moments où il y aura moins de soleil, où on sera bénéficié. Alors, on parlait à l'époque même des grands gisements éoliens en mer du Nord, qui ferait un peu rêver en disant il y a l'éolien dans la mer du Nord qui alimente le nord de l'Afrique à certains moments, et à d'autres moments, c'est l'Afrique qui... Donc les études ont été menées, mais RTE n'était pas dedans, typiquement. Donc on n'était pas dedans, l'étude a été sous-traitée à des consultants, et j'ai pas les résultats, enfin les lignes sont pas là. Et puis d'autre part, il y avait quand même un côté instable en Afrique du Nord qui faisait qu'il y avait peut-être des difficultés à trouver des investisseurs qui soient prêts à mettre des panneaux là-bas sans risquer d'être dynamité tous les 4 matins. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait un projet de l'adogement qui sur Desertec. Il fut un temps, il prévoyait d'avoir des projets à 400 milliards d'euros. Et il avait été jugé non rentable à l'époque. Hein, parce que se pose la question des tarifs d'achat, parce qu'il fallait aussi, est-ce qu'on rachète au même prix qu'en Europe, en France, le solaire de ces pays-là. Il y avait des problèmes de prix, de régulation. Donc pour le moment, ça ne s'est pas fait. Mais régulièrement revient cette notion de maître-grid, donc de réseau méditerranéen qui ferait le pourtour méditerranéen, qui se heurte à des problèmes politiques et économiquement, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres, mais c'est quelque chose dont on a pu parler, dont on parle régulièrement.
Christophe Girard, du Commissariat général à l'égalité des territoires. Une question d'organisation géographique sur le territoire français. Vous n'avez pas parlé des dom-toms, notamment Guyane, Océanie. Est-ce que vous intervenez là-bas ou comment ça se passe? Deuxièmement, j'ai vu sur la carte que la Corse était reliée par l'Italie. Donc est-ce que vous intervenez sur la régulation à ce niveau-là et comment, ou est-ce que c'est délégué aux Italiens? Et puis, troisième point, vous avez parlé des capacités de transport à l'anglais. Vous n'avez pas parlé de la dispersion ou de la perdition en ligne dans le transport d'électricité. Et est-ce que là, il y a une marge sur laquelle vous travaillez pour augmenter la capacité en diminuant les déperditions?
Alors sur la première question sur les îles, le choix qui avait été fait au moment de la Mbalik, c'était de laisser des systèmes intégrés.
Y compris en Guyane.
Oui. Donc c'est EDF qui intervient en Guyane et qui a une partie réseau, une partie production avec des appels d'offres. Et c'est une partie d'EDF qui s'appelle EDF, Système électrique insulaire. Donc nous, on a même la Corse. On est juste métropole. On est considéré que c'est...
Est-ce que sur votre carte, il y avait une liaison
Italie-Corse.
Haute tension, oui. Italie, Corse, Sardaigne.
Mais nous, on n'intervient pas en Corse. Oui, parce que le coût a été jugé. Enfin, quand on se pose la question d'un unbundling, au-delà de la théorisation du fait que ça sera mieux après qu'avant, sur des petits systèmes, il a été jugé que c'est priori, les gains seraient négligeables, voire que ça coûterait plus cher à mettre en œuvre qu'à laisser le système tel qu'il était. Donc EDF fait l'ensemble de la chaîne sur ces îles. Alors sur les pertes, c'est vrai que j'ai toujours la question, est-ce que vous avez une idée des volumes de pertes? Combien?
30 ici.
3.
Sur le réseau de transport. Hein. Non, c'est 2,1 sur le réseau de transport. Je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'on devrait changer en fait notre marketing plutôt que parler de perte qui est un terme ingénieur, on devrait parler de qu'on a un rendement de 98%.
Ouais, ouais.
Ce qui serait quand même plus
vendeur. Quelle que soit la distance.
Bah après c'est les. Oui, c'est oui, après c'est moyen, après on peut donner d'autres chiffres, mais c'est. En gros on a 2% sur le réseau de transport, 8% sur le réseau de distribution, je pense. Et moi, ce qui m'a. Après, ce qui me semble intéressant, c'est pas tant ce chiffre dans l'absolu, c'est dire, ok, si moi je suis pas là pour vendre du réseau à tout prix, d'ailleurs on en construit de moins en moins, mais c'est entre une solution réseau où on va calculer un niveau de perte, 2 ou 10%, la solution alternative, quel sera son rendement. C'est vraiment la hiérarchie des solutions qu'il faut comparer, c'est pas tant un chiffre dans l'absolu. Alors nous, sur le niveau de perte, on est à 2,1, on a énormément de marge. On peut descendre peut-être à 2, mais c'est tout. Enfin, aujourd'hui, on considère qu'on n'a pas de levier autre. Si on exploite, je ne l'ai pas dit, mais si on exploite les réseaux à haute tension, c'est justement pour limiter les pertes, parce que plus la tension est haute, moins il faut d'intensité pour transmettre la même énergie. Donc c'est les réseaux aussi qu'il faut qu'on utilise ces hauts niveaux de tension. Aujourd'hui, on a des marges très limitées sur les pertes. Donc, peut-être 2, mais ça n'ira jamais plus loin. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on a tout le temps, parce que je sais pas, c'est ça. On se dit que c'est loin, ça doit fumer, ça doit chauffer ce qui est vrai en partie, hein, ça chauffe un peu le ciel.
Un gros radiateur.
Sauf que les situations alternatives, si on compare ça à du stockage, où généralement on met en regard le stockage, on dit plutôt que de transporter, stocker localement. Moi je dis, bah, faisons le calcul, et puis à la fin, d'un point de vue économique, environnemental, on regarde ce qui est le plus pertinent. Nous on n'est pas là pour imposer du réseau, on est là pour mettre en œuvre les études qui permettent de qualifier des chiffres. Après, le politique choisit, et nous, bah, voilà, on prend acte, et puis ce qui doit se développer, c'est de là.
Oui. Oui, Frédéric Moulin, Gertégaz, moi je voulais prolonger peut-être votre présentation en prenant l'exemple de ce que c'est actuellement la métropole du Grand Paris, et notamment, peut-être que vous avez vu l'Atlas des grands services urbains qui présente l'ensemble des grands services urbains qui sont utiles à la ville. On va retrouver là-dedans les systèmes énergétiques, électriques, gazier, chauffage urbain, etc., transport, déchets, eau, etc. Et finalement, quand on regarde ce document, on se dit qu'aujourd'hui, il y a sans doute beaucoup de complémentarité à développer entre tous ces systèmes-là, et qu'aujourd'hui, on a encore des fonctionnements relativement en silo, donc j'aurais aimé avoir vos réflexions sur ce sujet. Et puis, en complément aussi, est-ce que vous pensez que les opérateurs de réseau, dans la gouvernance de ces systèmes, et notamment le pilotage de systèmes intelligents qui ont vocation à optimiser de la production et de la consommation. Donc, est-ce que vous pensez que les opérateurs de réseau ont un rôle à jouer, évidemment, mais un rôle à développer, et notamment dans le pilotage de tout ça, en relation avec les territoires?
Alors, sur le dernier point, là, nous, on est mandaté par le gouvernement, donc ça c'est RTE pour la France, mais les TSE pour l'Europe, pour mettre en œuvre les architectures de marché qui permettent le développement de ce que vous appelez l'intelligence, mais qu'on pourrait appeler les flexibilités. Donc nous, on anime pour la commission de régulation des espaces avec l'ensemble des parties prenantes, producteurs, fournisseurs, consommateurs, pour voir comment faire évoluer les architectures de marché qui fait que cette intelligence, ces offres de flexibilité peuvent avoir un cadre bien défini avec des prix bien définis. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment par ce biais qu'on travaille. C'est de développer des systèmes d'information les plus ouverts possibles pour permettre, par exemple pour les consommateurs, de dire bah, demain, entre telle heure et telle heure, je suis capable de vous vendre à vous, RTE, un effacement pour tel prix. Ça avance progressivement parce qu'on avance sur des formats d'offres qui au départ étaient plutôt importants, type on n'accepte pas les offres de moins d'un mégawatt, mais forcément les nombres d'acteurs qui sont qui peuvent intervenir et sont petits, mais au fil du temps, on diminue la taille des offres, qui fait que de plus en plus d'acteurs peuvent prétendre pour intervenir sur ces marchés. Donc nous, c'est vraiment le seul rôle qu'on aura. C'est-à-dire, il y a un besoin de flexibilité, faites vos offres et on prend celle qui est la plus économique parce qu'on a une obligation de préséance dans le choix de ce qui nous est présenté. Donc c'est plutôt dans ce rôle d'architecte qui permettra aux offres de se développer. Après, ce n'est pas à nous à envoyer directement les ordres, à piloter les consommateurs. Ça, c'est pas ça. Ça passera par de la contractualisation et par cette logique d'offre-demande ou sur les périodes court terme, comme j'ai dit, sur le long terme, c'est pas nous. Sur vraiment les échéances très court terme, nous, on est acheteurs. Et on met en œuvre une architecture de marché qui permet au maximum d'acteurs en production, en consommation, à intervenir et puis à valoriser leur intelligence. Souvent, c'est synonyme avec smart et avec flexibilité. L'intelligence, flexibilité, c'est un terme qui va bien. Après, sur la complémentarité, bah, nous, on travaille de plus en plus avec Gertegaz, notamment. Donc là, c'est maintenant qu'on a un actionnaire commun, c'est encore plus facile. Donc là, c'est quelque chose qui a été renforcé depuis les accords de décembre. Là, moi, je suis derrière, c'est moi qui fais signer l'accord sur Jupiter 1000, donc sur Power to Gas qui se développe. C'est en quoi une filière électricité, une filière gaz peuvent être complémentaires et plus se suppléer à certains moments, notamment quand les périodes de froid, notamment, on a vu que le gaz a été utilisé abondamment. On connaît le biais du gaz vers l'électricité, puisqu'on a des centrales à gaz qui produisent l'électricité. Là, ce qu'on regarde, c'est l'inverse. C'est est-ce que les réseaux, quand ils sont surchargés, ne peuvent pas utiliser le gaz comme moyen de stockage. Donc, on a l'électricité en surplomb et on la transforme, c'était le power to gas, donc on la transforme en gaz qui va en hydrogène, qui va après aller soit être stocké, soit être utilisé par GRT Gaz pour des besoins de gaz. Donc ça pourrait être utilisé sur la chaîne transport, ça pourrait être utilisé aussi sur la maille distribution, mais là je suis moins qualifié pour le faire, avec des chaudières qui pourraient fonctionner à la fois sur l'électricité et sur le gaz et switcher en fonction des contraintes sur telle et telle ressource. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel moi qui m'intéresse, parce que vu d'un territoire, souvent on s'en fiche un peu que ça soit de l'électricité, du gaz ou de la chaleur, on veut une espèce de photos très larges. Donc là, on travaille beaucoup avec Gertegaz sur des outils communs pour avoir une appréciation commune du paysage énergétique, électricité et gaz à l'avenir et voir comment développer au mieux, maximiser l'utilisation des infrastructures existantes et minimiser le développement des nouvelles infrastructures. Mais ça, c'est un champ qui est entièrement nouveau. Tant mieux, ça démarre, on va voir ce que ça va donner. Et ce qui nous est demandé aussi au niveau européen, ils nous disent, bon ok, il y a l'électricité, le gaz, mais si vous travaillez ensemble, quel est le gain sur le développement des infrastructures à l'échelle européenne? Donc ça, c'est des études qui sont en cours pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a beaucoup de gains, pas beaucoup de gains? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut être capable de répondre à cette question. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est... Cette convergence des énergies, c'est un thème important. Pour le moment, on le prend par le gaz, après la chaleur, je ne sais pas comment ça peut se... Vous pillez, c'est, à mon avis, c'est plutôt côté distribution que côté transport, hein, parce que nous on arrive jusqu'aux villes et après on s'arrête à l'entrée des villes, hein, on s'arrête au périphérique. On passe la main après à nos collègues distributeurs qui sont peut-être plus concernés.
Est-ce qu'il y a une dernière question avant la pause? Non. Alors on remercie très vivement Michel.